mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras. Rachemos as barreiras en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Recoñecémonos todas mulleres, no sentir donos allá. Oprimidas as mulleres, querémonos rebelar. Ergámonos, mulleres, rachemos.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc voilà, c'est ma première émission de rentrée depuis l'été. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon été. Donc pour commencer, je ne vais pas parler tout de suite d'actualité parce que les actualités sont souvent anxiogènes. Donc je vais commencer par une thématique que j'aborde pas assez souvent et que j'ai travaillé un peu cet été, j'ai profité de mes vacances. Donc il s'agit de la santé des femmes et des violences obstétricales et gynécologiques. Alors, en patriarcat, les femmes sont structurellement invisibilisées et déshumanisées. La domination masculine organise la domination et l'appropriation de nos corps. Ces mécanismes patriarcaux sont très apparents dans le domaine de la santé. Les femmes sont décrites comme le sexe faible par la pensée médicale depuis l'Antiquité. Jusqu'à récemment, la recherche médicale était menée très largement sur des hommes. Leur physiologie considérée comme stable représentait la norme de la physiologie humaine. La sous-représentation des femmes dans les études médicales et les essais cliniques affecte leur prise en charge. D'ailleurs, la physiologie féminine est toujours méconnue et sous-étudiée. Les règles et la grossesse chez les femmes sont encore perçues comme des irrégularités. J'ajouterai aussi, vous devez le savoir, que c'est tout à fait récent que le clitoris est apparu dans les manuels scolaires ou dans les papiers. En fait, jusque-là, c'était complètement inconnu. Et donc, c'est quand même dingue que ce soit arrivé si tard. Donc, les spécificités des femmes demeurent particulièrement sous-étudiées dans deux domaines. Les maladies cardiovasculaires, qui sont responsables de 35% des décès chez les femmes, ou seulement 19% des participantes dans les essais cliniques. Donc il y a deux domaines où les spécificités sont sous-étudiées, donc les maladies cardiovasculaires et le VIH, où seulement 19% des participants des essais cliniques sont des participantes, donc sont des femmes. Il y a des préjugés misogynes qui persistent en médecine. Les femmes seraient émotives. Les douleurs des femmes sont souvent minimisées ou psychologisées. Un exemple, par rapport aux hommes, on traite plus souvent les femmes souffrant de maladies cardiovasculaires par anxiolytiques. Les parcours de soins sont encore truffés de discrimination pour les femmes. Pour aussi les femmes victimes de racisme, ça s'ajoute, pour les femmes en situation de handicap, pour les femmes lesbiennes. Par exemple, le syndrome méditerranéen, c'est un stéréotype raciste qui persiste, selon lesquels certains groupes ethniques exagéreraient plus leur douleur que d'autres, notamment au moment de l'accouchement. Donc nous revendiquons une médecine féministe qui écouterait les femmes, qui prendrait en compte leurs spécificités, sans discrimination sexiste, raciste, validiste ou qui discriminerait les lesbiennes. Alors, j'ajouterai aussi une publication qui m'a retenu mon attention, donc de Francine Sporanda, qui est une militante féministe, journaliste, qui a un site formidable qui s'appelle Révolution Féministe, à ne pas confondre donc avec mon émission, même si nous avons les mêmes valeurs. Et donc, elle a écrit récemment sur les réseaux sociaux à propos de la maternité et domination masculine. Donc, elle parle donc de maternité, de santé, de domination. Donc, voilà ce qu'elle a écrit qui m'a intéressée. Elle dit « Je rêve d'une maternité totalement choisie et surtout en connaissance de cause, dans le contexte d'un discours d'opinion commune qui, au lieu de présenter ce pouvoir féminin de créer des êtres humains comme une source de joie sans fin, parlerait aussi des immenses sacrifices, fatigue, déception et coûts physiques, professionnels et financiers qu'elle implique. Je rêve d'une société dans laquelle les mères ne toucheraient pas des pensions de retraite inférieures de 40% à celles des hommes, parce qu'elles ont dû arrêter de travailler pour prendre soin de leurs jeunes enfants. » Donc retenez ce chiffre parce qu'il est vraiment... quand on entend « mais non, tout va bien aujourd'hui, il n'y a pas d'inégalité », donc il y a quand même une différence effarante au moment de la retraite entre les femmes et les hommes. « Je rêve d'une société où les hommes partageraient ce travail de soin des enfants à égalité avec les femmes et où celles-ci, de ce fait, ne seraient pas pénalisées professionnellement, pourraient faire carrière comme les hommes avec les mêmes promotions et des salaires égaux. Je rêve d'une société où il y aurait davantage de crèches et d'aides sociales pour les mères, en particulier pour les mères solo, qui se retrouvent massivement en dessous du seuil de pauvreté après un divorce. Alors que presque un homme séparé sur deux ne paye pas la pension pour ses enfants et où ces hommes délinquants sont impunis par la justice. À ce point-là, on peut dire que le non-paiement des pensions pour les enfants est une norme, un trait caractéristique de la néo-domination masculine. Les hommes conservent des droits sur leurs enfants, droit de visite, droit d'empêcher la mère de se déplacer, de déménager pour que le père puisse exercer ce droit de visite, droit de contrôler, voire harceler la mère en instrumentalisant les enfants pour ça. Il faut savoir qu'il y a un nombre important de féminicides qui sont commis par des hommes lors de leur contact avec leur ex-femme dans le cadre de la remise d'enfants. Mais, donc, ils gardent tous leurs droits, mais par contre, ils se débarrassent bien trop souvent de leurs devoirs. Ils ne veulent plus payer pour leurs enfants après séparation. Ils laissent la mère tout assumer, tous les soins des enfants et leur entretien financier. En fait, d'avancée féministe, la maternité moderne rend les femmes plus vulnérables que jamais. Et elle termine donc « Je rêve d'une société où les femmes seraient mieux et plus humainement soignées lorsqu'elles attendent un enfant et lors de l'accouchement, de façon à ce qu'il n'y ait plus environ 300 000 femmes qui meurent par an dans le monde suite à une grossesse. Ce chiffre est très élevé pour les pays non occidentaux. Il est inacceptable et résulte d'un manque d'accès aux soins médicaux. Mais sachez qu'aux États-Unis, il se situe entre 700 et 800 par an, donc femmes qui meurent au moment de l'accouchement, avec un taux de mortalité maternelle 3 à 4 fois plus élevé pour les Afro-Américaines. Donc les USA ont le pire taux de mortalité de tous les pays occidentaux. En France, il se situe autour de 300. Je rêve d'une société où enfin ce travail, entre guillemets, maternel, gratuit, le plus indispensable de tous, sans laquelle l'humanité disparaîtrait en quelques générations, serait respectée au lieu d'être ignorée, méprisée et pénalisée. Alors, donc, pour creuser ce sujet, je me suis servie d'une interview. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est une émission féministe, amie, donc avec des collègues dont je connais certaines, et avec qui nous partageons donc les mêmes valeurs. Et du coup, j'ai extrait des extraits de l'émission qui s'appelle Remue Ménage Féministe, et je mettrai le lien dans mon podcast pour que vous puissiez aussi vous référer à cette émission et écouter l'interview en entier, parce que je ne suis pas sûre que je vais passer toute l'interview. Donc voilà, mes amies collègues militantes ont interviewé une femme qui s'appelle Sonia Biche et qui est animatrice du collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques qu'elle a créé en 2017. Je mettrai aussi tous les liens sur Stop Vogue pour que vous puissiez vous référer à cette association. Voilà, donc du coup, je vais vous faire écouter quelques extraits donc, que j'ai choisis. Je ne vais pas tout vous passer, donc déjà, il faut que je les retrouve. Excusez-moi, parce que je suis aussi à la technique. Donc du coup, il me faut le temps juste de les trouver. Voilà. Donc, il y avait un petit extrait d'introduction, mais je ne vais pas vous le passer. Je vais vous le dire, en fait, où elle explique ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que la santé des femmes est une question qui est encore trop méconnue et maltraitée, qui ne compte pas assez. Et elle ajoute que les médicaments sont testés sur une cohorte d'hommes, donc ça vous donne des chiffres en plus par rapport à ce que je vous disais. Donc ils sont davantage testés sur les hommes à 70% et sur les femmes seulement à 30%. Voilà, et ce qui entraîne un problème, évidemment, une discrimination, parce que les posologies des médicaments sont du coup moins adaptées pour les femmes, moins efficaces et peuvent avoir plus d'effets secondaires. Donc, je vais vous faire écouter le premier extrait que j'ai choisi.
Alors. L'émission Remue Ménage Féministe interview aujourd'hui Sonia Biche. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Alors, ce que j'aurais envie d'évoquer avec toi en introduction, c'est cette phrase qui est dans la religion catholique. Tu accoucheras dans la douleur. C'est quand même quelque chose qui a structuré les représentations des femmes et des hommes pendant des siècles, qui doit bien exister dans les autres religions, saloperie de religion. On va les mettre à la poubelle, on en voudrait en tout cas, parce qu'effectivement, cette vision du monde où les femmes doivent souffrir pour accoucher, ça a généré pendant des années et des années aucune recherche, aucune prise en compte de la douleur vécue par les femmes. On peut remercier le docteur Lamaze, qui a été un des précurseurs, un des inventeurs de la méthode d'accouchement sans douleur. En même temps, cette appellation qu'il a donnée à sa technique d'apprentissage d'une respiration adaptée pour souffrir moins, ça a pu faire croire à beaucoup de femmes qui n'avaient plus de douleur du tout. Or, moi, de témoignages de copines qui ont accouché, je sais qu'il peut y en avoir, ça ne marche pas toujours, et il peut y en avoir des fois très très fortes, même sans mauvais traitement.
Bien sûr, ben en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une physiologie de l'accouchement en fait, qui a respecté, et actuellement, ça n'est pas forcément le cas. Et par exemple, on sait que la douleur, elle est fonction de la position. Donc, c'est-à-dire, si on est allongé, là, c'est des douleurs effroyables, mais en fait, c'est le bébé qui indique en fait, dans quelle position la maman doit être pour l'aider à sortir. Donc, forcément, il faut être davantage en vertical. Donc, il y a vraiment la position
accroupie,
qui... Ouais, bien sûr. Donc, en fait, ça, c'est très, très mal connu. Et puis c'est sûr, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a cette vision en France que forcément, être une femme, c'est souffrir. Alors que ce soit pendant ses règles, même pour être belle, il faudrait souffrir. Donc, au bout d'un moment, tu ne soignes pas les personnes qui souffrent d'endométriose, qui sont diagnostiquées au bout de 7 à 10 ans. Et même après, de toute façon, comme il n'y a quasiment pas de recherche sur la maladie, elles ne sont pas soignées. Donc, la solution, quand on les a diagnostiquées au bout de 7 à 10 ans de torture pendant leurs règles, on leur dit soit c'est pilule à vie, non-stop, soit c'est bah, faites un enfant, mais bon, un enfant médicament, ça a ses limites. Ou alors, faut vous opérer de l'utérus, mais bon, ça ne marche pas toujours. Donc, en fait, il n'y a pas de soins, malheureusement, parce que la santé des femmes ne compte pas assez.
Oui, et donc, le gros intérêt du collectif que tu as initié, c'est de mettre ce sujet sur la table. Et ce sujet, d'une façon d'autant plus violente, c'est que c'est pas seulement la douleur qu'on ressent, quels que soient les épisodes de la vie, où on sait qu'il y en a.
Ou c'est des épreuves, tu vois, où c'est plus intense.
Et toi, tu parles surtout des violences obstétricales gynécologiques, c'est-à-dire qu'on en rajoute une couche.
Voilà, c'est ça. C'est comme si, de toute façon, être une femme, c'est souffrir. Donc, de toute façon, on peut leur en faire baver encore plus, tu vois. C'est un peu cette idée. Et en plus, là-dessus, le problème qu'il y a avec les violences obstétricales et gynéco, c'est que ça renvoie au médical, aux professionnels de santé, aux médecins. Et donc là, on a vraiment une image d'épinal du médical, déjà qui est l'élite de notre nation. Hein, dès que les jeunes font médecine, d'un coup, c'est l'élite, etc. Donc les femmes, à côté, leur parole, vu que déjà, c'est la dernière roue du carrosse. Voilà, donc face à des médecins, on ne fait pas le poids. Et donc, toutes ces violences, elles sont absolument à punir. Il y a énormément d'abus de pouvoir médicaux. Et donc, c'est ça qu'on dénonce à Stop Vogue. Et vraiment, notre but, c'est vraiment de rehausser le niveau de conscience de notre société sur le fait que, malheureusement, tous les professionnels de santé ne se valent pas. Tu vois, il y en a des... comme dans tous les métiers, en fait, il y a des gens bienveillants, malveillants, incompétents, compétents. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Tous les médecins ne se valent pas. Sauf qu'il y a un pouvoir bien plus grand de nuisance. Surtout en gynéco et en obstétrique où ça a à voir avec l'intimité des femmes. Donc nous, à Stop Vogue, voilà, on reçoit dans les environ 200 témoignages par mois de violence, donc c'est absolument effrayant. Et on se rend compte que les femmes ne sont pas du tout entendues quand elles dénoncent des violences et qu'il y a une impunité totale des médecins.
Et donc toi-même, tu as subi ce genre de violence?
Alors moi, à l'origine de mon combat, c'est justement que j'ai été victime de violences pendant justement mon accouchement qui était en 2015. Et je me suis rendu compte que la société n'entendait pas. On me renvoyait, t'es en vie, ton bébé aussi. Enfin voilà, en gros, de quoi on se plaint. Alors que moi, je me dis mince, mais quand même, on peut aimer son enfant, être en vie, mais avoir été agressée ou avoir eu un médecin qui était extrêmement méprisant, extrêmement violent. Et pourquoi personne n'entend? Et ensuite, en justice, je me suis rendu compte que c'est compliqué aussi parce que c'est parole contre parole, c'est un grand médecin, un grand gynéco, etc. Et moi, je me suis dit non, c'est hors de question que je me batte pas, que j'épargne pas d'autres personnes, parce que je suis vraiment devenue féministe pour le plus jamais ça, en fait. Ça a vraiment été c'est vraiment mon engagement. Puis c'est une manière, je pense, de me remettre et de refuser, tu vois, l'impunité. L'injustice, en fait.
C'est une façon de faire face à la souffrance que tu as subie.
Voilà, c'est ça. Et de refuser l'injustice. Je ne peux pas me dire que je vis dans une société qui est à ce point injuste, au point d'écraser la parole des victimes. C'est hors de question.
Voilà. Alors, je reprends le micro. Donc, du coup, ce collectif qu'elle a créé a recueilli des témoignages de patientes qui dénoncent des actes de maltraitance lors de leur accouchement dans des maternités. Donc, voilà, si vous allez voir sur le site du collectif, vous verrez, on peut retrouver ces témoignages. Donc, pour vous donner une idée des maltraitances, des violences que subissent les femmes, je me sers d'un article de Mélanie Deschalotte, qui est journaliste à Charlie Hebdo et qui a écrit à propos donc de Stop Vogue. Donc voilà, c'était en 2015 que donc le collectif Stop Vogue, donc créé par Sonia Rich que vous venez d'entendre, a recueilli une trentaine de témoignages de patientes qui dénonçaient des actes de maltraitance à la maternité de l'hôpital privé d'Antony, dans les Hauts-de-Seine. 16 de ces récits ciblent un gynécologue obstétricien en particulier, dont les propos et les pratiques, aussi brutales que contestables, ont profondément meurtri les femmes. Péridurale inefficace, accompagnée d'épisiotomie sans information ni consentement. Pose violente de forceps et suture à vif. Révision utérine sans anesthésie, etc. Il a été forcé de prendre sa retraite. Mais si l'homme a dû raccrocher les forceps, il continue d'exercer ses fonctions de gynécologue dans son cabinet privé, à deux pas de la maternité. Alors, donc quelques témoignages. Mon corps tressautait de douleur. C'est le témoignage de Julie qui a subi une césarienne à vif. Et le fameux gynéco a demandé à l'infirmière de me sangler les jambes. Par ailleurs, 6 témoignages d'accouchement révèlent chez ce médecin, lorsqu'il manie le fil et l'aiguille, un penchant pour une pratique interdite, le point du mari, soit un point supplémentaire lors de la suture d'une épisiotomie, afin d'accroître le plaisir de l'homme. Ce médecin sévissait déjà en 1997 dans ce département, à la clinique Ambroise Paré à Bourg-la-Reine. Isabelle B., bon évidemment les noms étaient changés, vous en doutez, raconte le déclenchement de son accouchement, alors imposé par ce gynécologue à 8 mois de grossesse et sans raison médicale. Le bébé ne sortant pas, le médecin décide de l'extraire avec des forceps hauts, soit l'application de forceps avant l'engagement de la tête du bébé. Une pratique très fortement déconseillée et dangereuse qu'on évite grâce à une césarienne. L'accouchement tourne au carnage. Résultat, un périnée irrémédiablement abîmé et une chirurgie réparatrice après des années de souffrance. Ma mère, qui était infirmière, lui a dit qu'il ne devrait pas avoir le droit d'exercer. Elle l'a traité de boucher. Il lui a répondu « Tous les bébés devraient naître à 8 mois. Tous les organes sont finis. Le dernier mois ne sert à rien. » Témoignage de Pauline. Pour ma première grossesse en 2013, j'avais choisi d'être suivie par cet obstétricien parce qu'il a été vu dans plusieurs émissions de télé. La jeune femme raconte les railleries du gynécologue sur sa prise de poids durant sa grossesse. Il lui dit « Ça va à la cantine ? Après vous allez pleurer parce que vous êtes trop grosse. » Il est convaincu qu'elle porte un gros bébé. Il procède 2 fois, sans l'avertir, à un très douloureux décollement des membranes afin qu'elle accouche avant terme. Face à ses pleurs, il rétorque « Il faut vous détendre, autrement je ne sais pas comment vous ferez passer votre lard de 5 kilos. » L'accouchement de Pauline finit en césarienne avec un bébé de 3,2 kg. Lors d'une visite de suite de couche, l'obstétricien s'adresse à la jeune femme et à son mari et dit « On dirait une baleine échouée. Vous vous êtes vu ? Bon courage, monsieur. » Témoignage de Audrey qui raconte qu'après une fausse couche, son mari s'enquiert auprès du gynécologue sur le délai avant de réessayer d'avoir un enfant. Réponse froide du professionnel « Votre femme, vous la violez quand vous voulez. » Voilà, c'est assez sidérant. Donc je vais reprendre les extraits de l'interview de Sonia Rich qui va détailler en fait ce qu'on appelle ce que sont les violences gynécologiques. Voilà, alors attendez, il faut juste que je retrouve. Voilà, j'ai perdu. Ah, pardon. Désolée si ça me prend une petite minute parce que j'ai perdu ma playlist avec tous mes audios, mais je suis en train de la retrouver. Voilà, donc, petit extrait où Sonia Rich répond à la question de ce que sont les violences gynécologiques.
Les violences gynécologiques, par exemple, quand on va sur le site de ton collectif, stop-vog.fr, tu en définis 6. La première, le non-suivi des bonnes pratiques médicales par les professionnels de santé. Est-ce que tu peux nous développer ce point ?
Alors, la Haute Autorité de Santé française émet des recommandations de bonnes pratiques. Malheureusement, elles ne sont pas toujours suivies. Et comme il n'y a pas de contrôle qui est fait, du coup, c'est un peu au petit bonheur de la chance de si on va tomber sur un professionnel qui suit les recommandations ou pas. Notamment, alors il y a des gens qui font, alors c'est de moins en moins heureusement parce qu'il y a tout ce travail militant qui dénonce et qui permet quand même de faire un petit peu avancer les choses, mais il y a des médecins par exemple qui faisaient systématiquement des épisiotomies. Maintenant, depuis en plus début 2000, on sait que non, ça n'évite pas les déchirures graves du périnée. Sauf qu'il y en a qui sont restés sur leur apprentissage d'avant et qui faisaient des épisiotomies systématiques parce que c'est leur habitude et qu'au bout d'un moment, pourquoi pas en faire. Sauf que quand on fait une épisiotomie, normalement ça doit être vraiment des cas rares. Il y a des maternités en France, Nanterre et Besançon, qui sont à 1%, tu vois, 1 ou 2% d'épisiotomie. Et la moyenne nationale pour le premier enfant, c'est 35%. Donc, du coup, il y a d'autres maternités, c'est bien beaucoup plus.
L'épisiotomie, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs, c'est le fait de couper
le vagin
pour permettre que le bébé sorte.
Plus rapidement.
Et ça ce qui est dit comme justification, c'est que ça évite les déchirures spontanées.
Sauf qu'on sait depuis 20 ans que ça n'est pas le cas. Il y a eu des recommandations très claires, mais il y a des médecins qui ne mettent pas à jour leur pratique. Voilà. Et puis, donc, voilà, il vaut mieux pas couper un corps, voilà, s'il n'y a pas besoin.
Le problème des épisiotomies, c'est qu'après, ça fait quand même une cicatrice.
Ah, puis c'est extrêmement douloureux, en fait, c'est le fait de couper le muscle en profondeur, enfin, là où il ne se serait pas déchiré sinon, quoi. Et puis, encore une fois, pour prévenir les déchirures, c'est important de faire attention à la position. Et actuellement, c'est vrai qu'en maternité, toutes les femmes, elles sont plutôt allongées. Et ça, c'est très mauvais pour
allongées,
le périnée.
Allongées, en plus, avec les jambes écartées.
Ouais, voilà.
Ça facilite le travail, la posture du médecin.
Mais c'est vrai que
ça ne facilite pas du tout
le bébé, en fait.
Le bébé ni la dame.
Même, tu te rends compte, en fait, au niveau physiologie, si jamais les genoux, en fait, ils sont écartés, ça te ferme les ischions, ça ferme la sortie du bassin. Enfin, il n'y a rien qui est fait. Et puis, le sacrum aussi doit se décaler. Déplacer. Donc, ce qu'on a dans le dos, se décaler de 2 à 4 cm. Pareil, sur une table, il ne peut pas. Donc, en fait, tout est fait, on dirait, pour vraiment fermer la sortie du bassin. Donc, c'est sûr que ce n'est pas pratique. Il vaut mieux qu'il y ait de la verticalité. Et voilà. Et ça protège le bassin, enfin, le périnée. Pardon.
Il vaudrait mieux que les femmes accouchent debout ou enfin sur des sièges, en étant un peu adossées, par exemple.
C'est évident.
Ou accroupies. J'avais vu aussi que dans certains pays où il y a au moins de médicalisation, il y a des femmes qui accouchent accroupies, en étant soutenues par des copines, en fait.
Ben oui, ça en fait, c'est comment dire, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de l'accouchement. Tu sais, on nous fait vraiment une culture de la peur immense en disant que voilà, que c'est horrible, que vraiment les femmes, elles seraient plus capables d'accoucher, il faudrait les accoucher. Enfin, tu vois, mais ça va dans le sens de on est incapable de tout, tu vois. Enfin, on est des chochottes, des hystériques, des menteuses. Et donc, ça nous enlève. Je suis pas en train de dire que c'est une injonction en fait d'avoir un enfant. C'est juste qu'en fait, on a cette capacité si on le souhaite. Et du coup, en fait, mais on en est capable, tu vois. La douleur des contractions, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que ce n'est pas une fatalité pour punir la femme, qu'elle soit je ne sais pas quoi. C'est en fait juste une aide pour savoir dans quelle position elle doit se mettre pour aider son bébé à descendre, tu vois. Et c'est souvent beaucoup plus en verticalité, accroupie, comme tu dis, quoi.
Ouais.
Et donc, pour te dire, donc, les bonnes pratiques, donc, par exemple, l'épisio, il y a le fait de ne pas faire de frottis systématiques avant 25 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui nous envoient leurs témoignages, qui ont des frottis trop jeunes. Des palpations mammaires, il n'y a pas besoin non plus, tu vois, et tout ça, c'est quand même peut-être des médecins, enfin voilà, pervers ou qui ne connaissent pas leurs recommandations, mais ça traumatise quand on a un frottis trop tôt. Il y a l'expression abdominale aussi pendant l'accouchement. C'est le fait que tu as des professionnels de santé qui appuient violemment sur le ventre des mères au moment de la descente de leur bébé, au moment de la sortie. Ben, ça, c'est interdit depuis 2007. Sauf que ça a toujours cours dans les maternités et que c'est pas marqué au dossier médical parce qu'ils savent très bien qu'il faut pas le faire. Mais c'est extrêmement dangereux pour la mère et l'enfant. Il y a une
ça risque quoi?
Ben, en fait, il y a une, par exemple, une femme de footballeur qui a un gros compte Instagram, c'est Baby à tout prix. Donc c'est pour ça que ça a été bien médiatisé. Elle a été interrogée par Blistory. Et en fait, elle témoigne que ils lui ont fait l'expression abdominale, elle est tombée dans le coma, elle a eu une hémorragie parce qu'ils lui ont détaché l'artère de la rate. Et c'est hyper dangereux, il faut pas faire ça. Mais sauf qu'ils ont appris ça avant les années 2000 et qu'il y en a plein qui continuent à le faire. Donc c'est pas normal. Mais il y a une telle impunité et il y a une telle absence des pratiques. Et puis qu'est-ce qu'elle, la mère, elle sait pas forcément. Elle a l'impression qu'on lui a sauvé la vie. Elle remercie le médical, tu vois, parce que les gens ne connaissent pas les bonnes pratiques. Et ben ça, il faut que ça. Nous, c'est ce qu'on veut faire, informer le grand public.
C'est pour ça qu'on t'a invité, d'ailleurs, pour que les auditrices et les auditeurs en sachent plus sur toute cette question. Elles fassent savoir autour d'eux et d'elles. Et c'est vrai que le travail militant est super important pour ça, parce que c'est une façon de diffuser les informations qui n'est pas contrôlée par l'État et qu'on peut faire nous-mêmes autant qu'on peut. Une autre question sur les violences gynécologiques, c'est le fait que la loi Kouchner n'est pas appliquée concernant le consentement libre et éclairé.
Alors c'est ça date de 2002, et c'est le fait que tout professionnel de santé doit demander normalement l'accord avant de faire un examen, un acte médical.
Quel qu'il soit, ça peut être aussi bien une palpation des seins.
Oui, voilà. En fait, notre corps nous appartient. Enfin, l'idée, c'est que et qu'un médecin, il n'a pas tous les droits, sauf que nous, on nous a vraiment formatés à tout accepter des médecins. Et en fait, non, je suis désolée. Et trop de médecins croient que parce qu'on passe la porte de leur cabinet, on consent à tout. Non, en fait, on ne consent pas à tout. On reste quand même maître de nos décisions, de nos choix. Et normalement, le médecin, il doit être au service. Et ça, malheureusement, au niveau de la formation médicale, c'est très peu enseigné. Et c'est pas juste une loi comme ça par-dessus la jambe, en fait. Non, la loi Kouchner, elle est claire. Et il ne faut pas obtenir le consentement en mettant de la pression du genre, par exemple, ce qu'on a dans les témoignages, si vous acceptez pas le frottis, je ne vous donne pas votre prescription de pilule. Enfin non, il ne faut pas faire de pression et il faut pouvoir informer quand même.
C'est-à-dire qu'il faut que les médecins apprennent à parler à leurs patients et à leurs patientes et à leur dire ce qu'ils vont faire avant de le faire.
Voilà.
Je vous propose de faire tel examen, ça me permettra de savoir ça, mais...
Qu'ils les considèrent comme des personnes, en fait. C'est ça qu'on voudrait. Que les médecins considèrent les femmes, les patientes qu'ils ont dans leur cabinet comme des personnes, des êtres humains. Et en fait, on a une médecine qui forme à être extrêmement déshumanisante. Parce que, alors, il y a plein de raisons. Hein. Déjà, il y a une mauvaise formation dans le sens, il faudrait que les patientes, elles participent, tu vois, à la formation. Ce qui se fait au Canada depuis 30 ans, mais en France, c'est encore très élitiste, très fermé, tu vois, pas du tout ouvert.
C'est leur pouvoir, en fait.
Il y a un pouvoir médical. Voilà, c'est ça. En France, le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas partager le pouvoir médical. Parce que, bien sûr, c'est grisant, mais ce serait bénéfique à toute notre société, tu vois. Donc, il y a un problème de formation. Et puis, les études de médecine, elles sont extrêmement violentes pour les étudiants. Il y a énormément de violence. Donc c'est sûr que c'est compliqué derrière de leur demander d'être bien traitants s'ils sont déjà complètement traumatisés dès leurs études, quoi.
Parce que moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de subir une échographie pelvienne. Et je me rappelle très bien, j'ai changé de cabinet de radiologie à la suite de cet examen parce qu'on me l'a fait sans prévenir. Sans me prévenir de comment ça allait se passer. Et on a fait pénétrer dans mon vagin un instrument qui mesure 15 cm de long, 3 cm de diamètre. Je n'ai pas spécialement eu mal, mais j'étais quand même surprise. Et je trouve que le radiologue aurait dû me dire « Je vais introduire cet instrument dans votre vagin. »
Est-ce que vous êtes d'accord ?
Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Moi, la question que je pose maintenant, c'est « Est-ce que je peux me l'introduire moi-même ? »
Voilà, tout à fait. Il y a des gynécos qui font des sages-femmes qui le proposent pour le spéculum, voilà. Qui le mettent à l'en... Et d'ailleurs, des sages-femmes qui me disaient que quand ce sont les femmes qui l'insèrent elles-mêmes, elles trouvent toujours le col. Alors oui. Que les gynécos, des fois, ils n'y arrivent pas. Ou voilà. Les femmes, c'est toujours bien placé.
Voilà, c'est vrai que c'est une façon aussi pour nous de nous réapproprier notre corps ou de le connaître. On ne le connaît pas toujours, y compris le vagin. Ben, on ne le voit pas puisque c'est interne. Ou on ne le voit que si on met un miroir avec un spéculum. Et donc, ça permettrait de mieux se connaître. Et moi, je trouve... Évidemment, ça prendra sans doute un peu plus de temps. On ne peut pas faire les visites à la chaîne toutes les 5 minutes. Il faut prendre le temps d'écouter la dame, de lui expliquer... Et tout ça, mais ça serait quand même beaucoup plus humain.
D'ailleurs, il y a des médecins même qui expliquent que quand on écoute les patients et les patientes, on fait un meilleur diagnostic plutôt en fait que de poser des questions fermées. Et du coup, tu fais plein d'examens dans tous les sens et au final, tu trouves jamais. Des fois, quand on écoute juste les gens, eh ben, tu vois, on arrive à trouver. Et c'est vrai que par rapport à ton témoignage, la loi française, elle est extrêmement claire sur le fait que il y a pas de pénétration qui doit avoir lieu avec surprise, menace, contrainte. Enfin, voilà.
Oui, c'est voilà.
Et il y a pas, comment dire, souvent, ce qu'on nous renvoie, c'est ils ont pas voulu, ils ont pas fait exprès. Mais on comprend tout ça, bien sûr. Tout le monde n'est pas une personne qui violente volontairement. Enfin, il y en a aussi, mais tout le monde ne le fait pas. Mais par contre, il faut comprendre que les conséquences pour les victimes sont les mêmes. Qu'ils aient voulu ou pas, une victime, elle se dit pas « Ah bah, je pense que lui, dans sa tête, il a voulu ou pas voulu. » Enfin,
ça
rentre
pas
en considération. Non, c'est le corps, en fait. On est traumatisé dans le corps quand on est violenté.
Oui, puis c'est vraiment...
physique.
Un autre aspect de ces violences, c'est la question des actes ou des examens médicaux qui sont faits sans anesthésie efficace. Alors là, t'as un roman.
Bah ouais, c'est ça. On a beaucoup de, par exemple, de césariennes à vif, de pendant les IVG aussi, tout ce qui est IVG chirurgicales qui peuvent être à vif.
Alors, sans anesthésie?
Bah ouais, c'est-à-dire que alors soit c'est des médecins qui punissent. Des femmes qui font des... Voilà, soit ça arrive comme ça, on ne sait pas, mais on a des témoignages terribles. Donc, révision utérine à vif, la couture du périnée à vif aussi, après l'accouchement. S'il y en a qui se disent, oh, c'est bon, elle a accouché un peu plus, un peu moins, donc ils recoutent tout le périnée à vif. Donc, moi, c'est ce que j'ai subi, c'est pas du tout une partie de plaisir. Mais voilà, il y a des hommes médecins qui se permettent de dire que, voilà, c'est rien, quoi. Bah, je pense qu'on ne recoudrait pas leur sexe à vif, donc voilà, je pense que ce serait le minimum. Non, mais en fait, c'est toute une ambiance, en fait, générale, c'est lié à la culture du viol, en fait, je pense, hein, dans notre société où clairement, faudrait pas qu'on se plaigne, sinon on est jugé de chochotte, tu vois. Donc, du coup, le médical peut nous en rajouter, faudrait qu'on se taise et qu'on dise merci. Ben non, c'est plus possible.
Voilà. Alors, je reprends. Avant de faire une pause musicale, je vais faire une précision, puisqu'elles ont parlé donc de la loi Kouchner. Alors, la loi Kouchner sur le droit des malades et le consentement des patients, il faut savoir qu'elle est insuffisante pour qualifier le type de délit dont elles viennent de parler, c'est-à-dire une pénétration médicale sans consentement. Donc, la loi Kouchner permet des plaintes au civil lorsqu'un examen médical est pratiqué sans consentement, mais elle ne fait pas la différence entre un examen qui nécessite une, entre guillemets, pénétration médicale du corps et un examen qui ne la nécessite pas. Et du coup, les femmes n'ont pas d'autre choix actuellement que de porter plainte pour viol pour que cela corresponde à leur traumatisme, comme vient d'expliquer Sonia Rich. Il y a une sorte de vide juridique qui est pointé par ces affaires et qui appelle peut-être à définir une nouvelle qualification. Alors, je vais faire une pause musicale avec la chanteuse Joni Mitchell. Je vais vous faire écouter Big Yellow Taxi.
Paradise put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
Pay farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, bah, 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 bah.
La révolution sera féministe. Alors, avant de reprendre, comme cette chanson était très courte, je vous en fais écouter une autre. Je choisis Donna Hightower, The World Today is a... j'arrive même pas à lire. Bon, voilà, je vous la fais écouter. Hop. Is a mess. The world today is a mess.
Everybody knows it's only what you take, what you see, and what you hear. When it comes around again, it's not too clear. You say yes, they say no. Everybody's talking everywhere you go. You're trying to give another man a helping hand, and he will take your kindness for a week of span. Never do to others what they do to you. Try to find another. What I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray. It's out of style. You get a step ahead. It takes 100 miles. An hour. What I take is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray. You know that's out of style. Get a step ahead. It takes 100 miles. Now you try to give another mile.
it to them before they do it to you. What you do and what you say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. Or now what you see and what you hear, when it comes around again, it's not gonna be the same thing. Because you're gonna say yes, and they're gonna say no, and then everybody gonna start talking and blah blah everywhere you go. And you know something? You try to give another man a helping hand, you know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a weaker stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it. It's gonna be some other kind of thing. So you try to give another man, now listen, a helping hand. He will take your kindness for a weaker stand. Never do to others what they do to you. I'm gonna try to do the best I can, baby, to sock it to you. You better try to give another man another kind of helping hand.
Voilà, pour finir sur le thème donc, de la santé des femmes et des violences obstétricales et gynécologiques, je vous mettrai donc le lien sur la fin de l'interview de Sonia Rich de l'émission Remue Ménage Féministe. En fait, elle termine l'interview en parlant du lien avec l'IVG, mais je vais en parler moi-même juste après. Et elle parle aussi de l'affaire Darail. Elle dit que donc le 8 mars dernier, le 8 mars 2022, le collectif Stop Vogue a manifesté devant l'hôpital Tenon avec un collectif de lutte pour la réouverture du centre IVG. Et elles ont été confrontées à l'extrême droite que les flics protégeaient. Elles ont aussi manifesté par rapport à l'affaire Darail. Donc en septembre, des étudiantes en gynécologie ont témoigné de viols gynécologiques sur des patientes pratiquées par des médecins et des professeurs. Donc il s'agissait de pénétrations violentes avec spéculum et touchés rectaux violents, du jugement, du mépris, etc. En plus, donc elles avaient alerté la faculté et l'hôpital et ça n'avait servi à rien. Du coup, elles ont contacté le collectif Stop Vogue et Stop Vogue avait diffusé alors les témoignages donc de ces étudiantes de façon anonyme. Les étudiantes ont davantage été crues que les victimes. Que les femmes, je veux dire les patientes. Il y a eu 190 témoignages de violence. Et donc, il y a eu 25 plaintes au pénal pour viol sur mineur, alors que donc ce professeur Darail est toujours en poste à Tenon, aux dernières nouvelles. Donc il y a eu une médiatisation, une enquête interne de la PHP. Finalement, il ne sera plus chef de service ni responsable pédagogique, parce qu'il l'était, il validait les stages, donc vous comprenez la difficulté encore plus pour les étudiantes de témoigner. L'ordre de médecins avait été contacté et n'avait rien fait. Et en plus, il devait participer à un congrès par le collège qui est, figurez-vous, un congrès qui émet les recommandations des bonnes pratiques. Et ce collège des médecins avait pensé comme bonne idée de faire venir ce professeur Darail. Donc c'est vraiment une provocation ouverte aux victimes. Finalement, bon, la médiatisation a quand même eu quelques effets, mais le collège des nationales des gynécologues français n'a pas, il n'y a pas eu d'excuses. Voilà, le collège ne s'est jamais prononcé. Voilà. Ensuite, eh bien, qu'en est-il des femmes gynécologues ? Est-ce qu'elles se comportent mieux que les hommes ? Mais c'est pas évident parce que malheureusement, elles protègent les hommes et elles trouvent les femmes de Stop Vogue méchantes de dénoncer. Alors comment ça s'explique ? Eh bien, certainement l'intériorisation, moi je dirais, avec mon analyse féministe de la misogynie. Je dirais aussi qu'elles ont subi certainement un système sexiste et violent, et que donc dans le domaine médical, et que pour acquérir leur galon, elles ont certainement, ben, elles reproduisent des mauvais codes. voilà, elles reproduisent, enfin certaines, hein, pas toutes, mais certaines femmes bien reproduisent au lieu de condamner. Voilà, ensuite, donc pour le, toujours parler du même sujet, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Speculum, pardon. Qui est conseillé de voir sur le sujet. Il y a aussi le blog de Marie Couche-Toi-là. Et puis là, récemment aussi, j'ai vu, ça a attiré mon... Enfin, dans le même thème, en fait, il y a Mona Chollet qui parle d'ouvrages, de livres qui ont été écrits par Madame Ehren... Je le prononce pas bien. Ehrenreich. Et qui est morte récemment, tout récemment, à l'âge de 81 ans. Donc c'est une autrice qui a écrit deux livres essentiels et bien d'autres que Mona Chollet conseille de lire. Ces deux livres s'appellent « Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes ». Le deuxième livre, c'est « Fragile ou contagieuse, le pouvoir médical et le corps des femmes ». Donc ce sont des essais sur l'histoire du pouvoir médical sur les femmes et sur nos espoirs d'émancipation. Il y a aussi une publication de Anne-Cécile Mailfer qui a retenu mon attention, qui est dans le même thème, qui a récemment donc écrit par rapport à la santé des femmes, et qui dit « Le système de santé est un élément clé de l'émancipation des femmes. Il est le gardien des techniques de reproduction, avortement, accouchement, etc. » sans risque. Il est porteur d'une promesse, celle pour les femmes d'être libérées de centaines de peurs et de maux inexprimés. Mais le système de santé est aussi un élément tragique de l'oppression des femmes dans son histoire. La médecine, parce que s'appuyant sur la science, se veut neutre, se pense neutre. Mais justement, l'autrice Barbara Ehrenreich, donc dans les deux livres que je viens de vous citer, nous montre que ce n'est pas si simple. Donc ça se réfère à ces deux livres-là. Donc ce que montre Barbara Ehrenreich, c'est que selon elle, au Moyen-Âge, l'équivalent de nos médecins généralistes était la plupart du temps les guérisseuses, des femmes empiristes qui détenaient un savoir réel face aux médecins attardés des classes aisées, qui soignaient tout et n'importe quoi à coups de prières et de saignées. Mais le problème, en ces temps de soulèvement des masses paysannes, c'est qu'un peuple qui peut se soigner tout seul est un peuple indépendant. Et là, rien ne va plus. Et puis aussi que ces femmes qui étaient sexuellement libres, organisées en groupe et qui ont le pouvoir de guérir, eh bien, c'est terrifiant pour les hommes. Alors les hommes de pouvoir vont s'organiser et vont organiser la chasse aux sorcières. Ces femmes ont alors été persécutées, torturées, décrédibilisées. Les sorcières étaient souvent celles qui avortaient, qui accouchaient, qui permettaient aux femmes de savoir leur corps. À ce moment-là, après ça, une université a été créée pour qu'elle soit la seule à pouvoir autoriser la « entre guillemets » profession de la médecine. Évidemment, vous en doutez, cette université était interdite aux femmes, puisque les femmes aisées, instruites, étaient encore plus terrifiantes que les sorcières des campagnes. Toute médecine empiriste est devenue illégale. Les accouchements sont devenus l'apanage lucratif d'hommes peu compétents et les sages-femmes ont été à ce moment-là définitivement cataloguées. Chasse aux sorcières et absence de diplôme oblige comme superstitieuses et malveillantes. Donc voilà, je rappelle les deux ouvrages de Barbara Ehrenreich, Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes, et le deuxième, Fragile ou contagieuse, le pouvoir médical et le corps des femmes. Alors, du coup, je vais passer à un sujet en rapport, toujours. Je vais vous parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Cet été, les Américaines... ont perdu la protection d'un droit fondamental, puisque la Cour suprême américaine, l'équivalent de notre Conseil constitutionnel, a renvoyé aux États la garantie ou non du droit d'avorter. Et sans surprise, plusieurs États américains se sont alors empressés de l'interdire. Donc c'était l'arrêt Roe versus Wade qui autrefois garantissait une protection fédérale du droit à l'avortement aux États-Unis, et donc la Cour suprême américaine est revenue sur cet arrêt. 6 juges sur les 9 ont voté contre la reconnaissance nationale du droit à l'avortement. Concrètement, cela signifie que chacun des 50 États américains peut décider s'il autorise ou non les femmes à avorter. Les conséquences dramatiques de cette décision ne se sont pas faites attendre. 9 États ont déjà interdit l'avortement et 8 d'entre eux l'ont fait dans les 6 heures qui ont suivi l'annonce de la Cour suprême. Donc pour vous parler de ça, là, je suis en train de me servir d'un article. Je vais citer donc la référence. C'est Gwendoline Quapo, qui est journaliste pour Femmes Solidaires Nationales, une association à laquelle je me réfère très souvent. Et ça vient donc d'une revue qui s'appelle Clara Magazine, que je vous encourage à vous abonner parce que c'est très intéressant. Alors, tout cela se fait, n'oublions pas, donc au nom de la foi. La foi qui est une question personnelle, et rappelons que son expression est garantie en France tant par notre constitution que par la réaffirmation du principe de laïcité. Donc ne soyons pas dupes, cette décision de la Cour suprême aux États-Unis est une victoire politique des chrétiens fondamentalistes. Décision qui est également mise en cause sur le terrain religieux. Alors aux États-Unis, voilà, toutes les religions ne sont pas forcément d'accord entre elles. Il y a la synagogue progressiste Lord Avor qui a attaqué l'interdiction de l'avortement en Floride au motif que l'avortement, s'il sauve la vie d'une femme enceinte ou qu'il est nécessaire pour son bien-être mental, est conforme à la foi juive. Et il y a aussi aux États-Unis les mouvements satanistes qui s'organisent pour faire valoir le droit à l'avortement comme l'une de leurs libertés religieuses. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, le respect des libertés religieuses est revendiqué fréquemment. Donc tous les coups sont permis. Cette décision ouvre la voie à la surenchère des États. Donc le Texas offre une récompense à quiconque dénoncerait une femme avortant ou une personne aidant une femme à avorter. Tous les coups sont permis. La maladie du patriarcat présente de nombreux symptômes et l'un d'entre eux est la haine viscérale qu'ont certains hommes pour les femmes. Plusieurs élus républicains américains ont ainsi justifié leur opposition à l'exception du viol ou de l'inceste pour l'avortement, en expliquant que le corps d'une femme aurait le moyen biologique de se fermer à une grossesse lorsqu'elle résultait d'un acte sexuel non consenti. Évidemment, c'est faux, et cela ajoute une couche de violence psychologique à la violence physique. Le résultat, c'est qu'une fois encore, le machisme tue. Une seule solution. Comment lutter contre ce retour en arrière? Les femmes du monde entier nous le disent également, en construisant une sororité tant de pensée que d'action. Les femmes mexicaines, qui ont elles-mêmes conquis leur droit à l'avortement de haute lutte, s'organisent déjà pour apporter leur aide aux femmes américaines. Les américaines elles-mêmes se mobilisent, en particulier pour donner des informations précises sur les pilules abortives et les façons de les prendre sans se mettre en danger. Encore une fois, l'avortement lui-même n'est pas une procédure dangereuse lorsqu'il est pratiqué par des professionnels, c'est-à-dire dans des conditions correctes. Bien entendu, dans tout cela, n'oublions pas que les Américaines ne sont pas les seules à avoir perdu le droit à l'avortement. Nous réaffirmons une fois encore notre solidarité avec les Polonaises qui se battent dans des conditions beaucoup plus difficiles que les Américaines, avec bien moins de soutien, notamment financier, pour reconquérir leur droit à disposer de leur corps. Alors, du coup, je vais vous faire écouter une interview donc par rapport à ce qui se passe aux États-Unis de Manon Garcia. Voilà, je vous la fais écouter sans plus tarder.
Petite fille de 12 ou 13 ans violée par leur père et enceinte qu'on va forcer à mener une grossesse à terme. Enfin, c'est abominable. Vous faites une fausse couche ou une interruption, vous avez une interruption naturelle de grossesse, le fœtus ne part pas de lui-même, vous devez prendre normalement des médicaments pour vous aider. Bon, ça va être interdit. Vous avez une grossesse extra-utérine, il va être interdit pour les médecins de soigner des femmes qui ont des grossesses extra-utérines parce que ça relève de l'avortement. Donc on pense qu'il va y avoir une augmentation de 20 à 30% du nombre de femmes qui vont mourir du fait d'être enceintes. Parce que simplement, les républicains disent Oui, mais en cas de grossesse extra-utérine, certes, les trompes vont éclater, il va y avoir beaucoup de saignements, etc. Mais peut-être que la grossesse va du coup se déplacer au bon endroit. Tous les médecins disent que c'est absolument faux. Mais l'idée, c'est si des femmes meurent, tant pis. C'est des convictions politiques réactionnaires. Donc, ce n'est pas juste un retour en arrière, c'est dire... Énormément de femmes vont mourir, ce seront des femmes majoritairement pauvres, majoritairement racisées, et tant pis pour elles. La personne qui a rédigé la décision majoritaire, qui est Alito, il a l'air d'être apolitique, mais il faut voir quand même que ce monsieur, en 1972, il sort de l'université de Princeton et il rejoint immédiatement une association dont l'objectif principal est d'empêcher les femmes d'étudier à Princeton. On est entre gens de bonne éducation, c'est-à-dire entre hommes, que le savoir c'est pour les hommes. C'est ça le sexisme, c'est ça la misogynie. Les femmes, elles doivent être des mères à la maison, ne pas étudier et surtout ne pas avorter. Et c'est ça qui est très frappant quand vous lisez la décision qui a été rédigée par Samuel Alito, c'est qu'il nous parle des petites mains du fœtus, etc. Et il n'y a pas un mot sur le corps des femmes. Il n'y a pas un mot sur le choix des femmes. Il n'y a pas un mot sur leur autonomie, sur leur liberté. Biden pourrait décider de prendre des mesures politiques très fortes, notamment faire valider la pilule abortive par l'autorité du médicament, donc la FDA, de sorte qu'elle ne puisse pas être interdite dans les États anti-avortement. Mais c'est vraiment un problème parce qu'on pense aujourd'hui que, par exemple, le stérilet va pouvoir être interdit au nom de l'interdiction de l'avortement. Parce que si vous croyez que ce qui compte, c'est le moment de la conception, bon ben un stérilet, mécaniquement, ça rend impossible la conception. Il y a toute une question sur est-ce que la fécondation in vitro, ça va être interdit ou non. Et c'est intéressant parce qu'il y a un député républicain qui a dit « Oh non, mais ça, vous inquiétez pas, c'est pas dans le corps d'une femme, donc ça va. » Et donc là, on voit en fait tout l'aspect idéologique. Ce qui leur pose problème, c'est le corps des femmes. Mais politiquement, c'est difficile. Il faudrait que Biden décide de s'investir complètement là-dedans. Mais il n'a pas assez de sénateurs. Il n'a pas la majorité absolue au Sénat.
Voilà. Alors, du coup, ça me fait penser aussi à mon amie Anicia Dokaine-Macro, qui est aux Amazones Paris. Et la dernière émission avant l'été, c'était avec elle. Et on avait parlé aussi de l'IVG. Et elle avait fait une belle analyse féministe de ce que ça représente comme contrôle du corps des femmes, justement. Voilà, donc je vous fais écouter juste cet extrait donc, de Anicia Dokaine.
Pour faire une petite analyse féministe, l'interdiction de l'avortement, c'est vraiment le contrôle du corps des femmes, au sens où la grossesse est ce qui l'a contrôlé dans l'interdiction de l'avortement, c'est le pouvoir des femmes de décider de transmettre la vie ou de ne pas la transmettre. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment ce corps puissant des femmes qui a la capacité de transmettre la vie et donc en fait de transmettre les connaissances, parce que c'est les femmes qui transmettent la vie, c'est ce qu'on appelle donc la filiation maternelle du coup. Et le patriarcat
est né un peu de cette ils sont
absolument
les hommes sont effrayés de ce pouvoir, en fait.
Le patriarcat, ouais. Littéralement ça veut dire le pouvoir ou le commandement du père, la loi du père, le commandement du père. Donc le commandement, ça va être l'exercice du pouvoir. La loi, ça va être vraiment ce système qu'on met en place du père. Et le père qui sait, le père, c'est le géniteur qui va être identifié. Or, dans l'ordre naturel des choses, on ne sait pas qui est le père. On ne peut pas, en tout cas, avoir certitude de qui est le père. Donc, la seule manière de garantir qui est le père, donc le géniteur, c'est de contrôler le corps des filles et des femmes. C'est d'interdire toute relation sexuelle en dehors du mariage. C'est-à-dire, avant le mariage, donc là, ce qu'on appelle virginité,
qui existe encore dans des tas de pays.
Virginité avant le mariage, jusqu'au mariage, et après le mariage, pendant le mariage, interdiction d'avoir des relations adultères durant le mariage, et interdiction renforcée pour les femmes. C'est-à-dire qu'en gros, on ne contrôle pas vraiment ce que font les hommes, on contrôle ce que font les femmes. Et c'est la seule manière de garantir l'identité du géniteur quand la femme accouche.
Tout à fait, ça vient de...
Voilà, donc ce système patriarcal, il est totalement fondée sur cette réappropriation de la puissance des femmes à donner et transmettre la vie. Et c'est pour ça que voilà, l'IVG, c'est totalement un sujet féministe et une revendication de libération, d'émancipation du corps des femmes. On choisit, nous, les hommes n'ont rien à voir avec ça parce que certes, ils sont géniteurs, mais enfin bon... voilà, ils ont transmis une partie de leur patrimoine génétique. Enfin, une fois, on peut le rappeler, hein, les hommes, c'est la grande majorité des personnes qui ne payent pas ce qu'on appelle vulgairement la pension alimentaire, la contribution à l'entretien des enfants, etc., en cas de séparation. En fait, on sait aujourd'hui que les hommes ne s'investissent toujours pas autant que les femmes dans la maternité, la grossesse, la contraception et l'éducation des enfants. Mais on voudrait nous faire croire que il faut absolument leur donner leur avis, leur demander leur avis et qu'ils ont le droit de s'exprimer autant que les femmes sur ce sujet. C'est faux. L'IVG, ça concerne les femmes. Ça concerne les femmes. L'avortement est un droit fondamental des femmes et c'est vraiment important d'en parler de cette manière-là.
Voilà, donc c'était juste un extrait donc de l'émission que j'avais fait avec Anicia des Amazon Paris. Vous pouvez la retrouver. Donc c'est la dernière émission, donc le dernier podcast collectif d'activistes féministes radicales créé par Marguerite Stern. Alors donc pour compléter où on en est dans cette guerre contre le droit à l'avortement qui s'intensifie dans le monde, je vais me référer à un article de Isabelle Germain des Nouvelles News qui ce sont des femmes journalistes féministes. Donc, c'est un site que je mettrai aussi en référence parce qu'on y trouve énormément d'informations d'actualité avec une analyse féministe. Alors, du Brésil aux États-Unis, en passant par la Pologne, la guerre contre l'IVG est féroce. En France, il y a l'idée d'inscrire ce droit dans la Constitution pour le protéger, mais cette idée ne fait pas l'unanimité. Qu'en est-il au Brésil ? Après qu'une enfant de 11 ans, victime de viol, a interrompu sa grossesse légalement au terme d'une longue course d'obstacles, le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré « C'est inadmissible de tuer cet être sans défense ». Ainsi, au Brésil, alors que l'IVG n'est autorisé qu'en cas de viol, de risque pour la mère ou de grave malformation du fœtus, la fillette a dû attendre très longtemps pour avorter, une fillette de 11 ans. Un mois et demi auparavant, une juge avait interdit cet acte et décidé de séparer la fillette de sa mère. L'affaire a fait beaucoup de bruit, avec le slogan « Criança não é mãe », une enfant n'est pas une mère. Et le ministère public a fini par ordonner à l'hôpital qu'il avait refusé au début de réaliser l'avortement. Mais le président d'extrême droite, Bolsonaro, voudrait étendre l'interdiction à tous les cas. Il a dénoncé le harcèlement des groupes pro-avortement et repris le narratif des anti-avortement en publiant une photo d'un bébé né prématuré. Donc l'annonce du 24 juin 2022 aux États-Unis donc de la suppression du droit constitutionnel à l'avortement a suscité dans le monde une vague de réactions indignées de la part de dirigeants du monde entier. Mais il faut savoir que les États-Unis ont rejoint de nombreux pays, des pays comme la Pologne, comme la Russie, comme le Nicaragua, qui ont réduit l'accès à l'IVG au cours des dernières décennies. Tandis qu'une grande partie du monde, heureusement, est allée dans l'autre sens. Plusieurs pays ont en effet libéralisé des lois restrictives, notamment l'Irlande en 2018, l'Irlande du Nord en 2019, l'Argentine en 2020, le Mexique l'année dernière ou la Colombie cette année. Et alors par contre, le Parlement allemand, il faut savoir, il a abrogé une loi qui, bien que souvent ignorée, a longtemps interdit aux médecins de faire de la publicité pour les services d'avortement. Donc en fait, c'est pas par contre, ça va dans le bon sens. Donc maintenant, les médecins peuvent fournir des informations publiques sur la procédure de l'IVG, alors qu'avant, c'était considéré comme un crime. Au Mexique, qui dépénalisait l'avortement en septembre dernier, les militantes et les militants se préparent depuis des mois à aider leurs voisines des États-Unis à obtenir des IVG. Donc effectivement, Gwendoline en parlait tout à l'heure. Mais la décision des États-Unis donne aussi des ailes aux croisés anti-IVG et partout dans le monde. cette décision est le fruit de campagnes de communication qui ont été intenses, qui ont été organisées avec des moyens impressionnants, de mouvements religieux très puissants aux États-Unis et qui ont su prendre, utiliser Internet aussi. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe en France ? Eh bien, en 2017, il y a aussi un mouvement anti-IVG assez fort, hein, des croisés anti-IVG. Et du coup, la France a créé un délit d'entrave à l'IVG pour contrer les pressions morales et psychologiques d'une information volontairement faussée par ces groupes-là. Et il a fallu en passer par le Conseil constitutionnel. En France, chaque progrès aussi a été un dur combat et les appels à renforcer ce droit en France continuent et il faut continuer à manifester dans les rues et sur les réseaux sociaux pour demander d'inscrire ce droit dans le marbre de la Constitution. Il y a un mouvement qui s'appelle IVG Constitution Urgence qui est assez suivi. Alors bon, la majorité présidentielle avait semblé tout dernièrement, puisqu'ils changent d'idée bien souvent, donc apporter cette revendication. Mais en fait, en France, il y a une espèce de faux consensus. Donc ce consensus n'est pas du tout évident. Et il faudra de la force pour amener une partie de la majorité présidentielle à soutenir cette idée portée par la gauche. Donc, durant la dernière mandature, la gauche avait tenté par deux fois d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, dont LRM n'avait jusqu'ici jamais voulu. C'est donc un consensus qui est plutôt fragile, et pas seulement parce que l'extrême droite, qui pèse lourd désormais à l'Assemblée nationale, est une farouche combattante du droit à l'avortement. Un autre exemple, c'est François Bayrou, président du MoDem, qui est allié à la majorité présidentielle et qui s'est interrogé sur l'utilité, il dit en ce moment, d'aller organiser un référendum sur cette question. Il est manifestement mal informé puisqu'il prétend qu'aucun courant politique ne remet en question la loi Veil et ce qu'elle est devenue dans les évolutions qui l'ont suivie. Eh bien, c'est pas si du tout évident que ça. Voilà, donc en France, il y a des médias qui sont amateurs de clash. Il y a les croisés anti-avortement, ils sont présents dans les médias. Ils peuvent bien charger sur leur projet, notamment sur la chaîne du fervent catholique Vincent Bolloré, CNews, où les anti-IVG ont table ouverte. Avec notamment une femme, Ludovine de la Rochère, qui a été meneuse du mouvement anti-mariage pour tous. Donc, je rappelle donc le mouvement IVG Constitution Urgence qui prend de l'ampleur et il est notamment suivi par des tas de militantes et notamment Sophia Sette, militante féministe qui invite les femmes à prendre des photos d'elle avec le mot dièse du mouvement pour continuer cette lutte. Alors, je vais faire une autre pause musicale. Donc, je vais vous faire écouter Primacy of Number. Thank you. La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je vais reprendre l'émission en terminant sur les mécréants qui célèbrent Salman Rushdie et qui préparent l'avenir. Ça s'est passé à Cologne en août dernier. C'est un événement qui s'appelle Celebrating Dissent, célébrer la dissidence. Et mon amie Betty Lashgar, pionnière du féminisme au Maroc, qui se bat pour la liberté de conscience, pour la laïcité dans un État théocratique, eh bien, y était. Et du coup, voilà. Donc, c'est un. Qu'est-ce que c'est Celebrating Dissent? Eh bien, c'est un grand rassemblement d'athées et de libres penseurs du monde entier qui s'est donc déroulé à Cologne le 20 et 21 août dernier. C'est un événement qui est organisé par Mariam Namazier, pardon, qui est cofondatrice du Council of Ex-Muslims of Britain, bon je le dis pas très bien, donc le Conseil des ex-musulmans d'Angleterre, basé en Grande-Bretagne. Et ça a été aussi organisé par l'Association des libres penseurs du Liban, dont beaucoup de membres résident en Allemagne. C'est un événement qui a eu une tonalité toute particulière, l'agression de Salman Rushdie étant dans toutes les têtes. Plus que jamais, ces athées ont voulu montrer qu'ils sont de plus en plus nombreux face à l'islamisme et déterminés à gagner la bataille contre l'obscurantisme. Étonnamment, le seul journal français donc, qui était là à couvrir cette manifestation et que je salue, eh bien, c'était Charlie Hebdo. Et donc, je me sers là de l'enquête, enfin, de pas l'enquête, plutôt le reportage de Lord aussi, qui s'est rendu, eh bien, qui était là-bas sur place pour faire ce reportage. Donc, la première édition s'était tenue en 2019 à Amsterdam. C'est une manifestation qui a rassemblé une cinquantaine d'athées de libres penseurs qui originaires de plus de 30 pays. C'est assez incroyable de rencontrer autant d'athées et de libres penseurs au même endroit, chacun avec des histoires toutes plus bouleversantes les unes que les autres. Et vous pourrez retrouver donc, les portraits sur le lien de l'article de Lord aussi, de Charlie Hebdo. Peut-être je vais vous en faire un ou deux seulement, puisqu'il n'y aura pas le temps de faire les portraits de toutes les athées qui étaient là. Donc, beaucoup risquent leur vie en raison de leur engagement, tout particulièrement les ex-musulmans. L'apostasie étant passible de la peine de mort dans 12 pays et le blasphème puni également dans de nombreux endroits du monde. La plupart des ex-musulmans présents ont d'ailleurs le statut de réfugiés car ils ont dû fuir leur pays d'origine. Ce rassemblement leur permet de se soutenir mutuellement et de faire entendre leur voix. Forcément, l'attaque dont a été victime Salman Rushdie était sur toutes les lèvres. Mariam Namazier a dit « Je dirais qu'il y a tellement d'attaques islamistes qu'à chaque fois qu'il y a un rassemblement de ce genre, c'est un moment singulier. Mais bien sûr, il y a une signification particulière après l'attaque dont a été victime Salman Rushdie. On sait qui est le responsable, c'est l'Iran qui avait lancé cette fatwa. Avec cette manifestation, les athées et les libres penseurs veulent montrer qu'il y a un grand mouvement de résistance contre les islamistes. » Le soir, les participants se sont lancés dans une marche dans les rues de Cologne en soutien à Rushdie, derrière la banderole du Conseil des ex-musulmans de Bretagne. De Grande-Bretagne. Et ils avaient affiché un slogan, donc l'apostasie n'est pas un crime. Alors justement, je vous ai parlé de Betty Lashgar, mon amie militante féministe. Eh bien, comment est-ce que ça s'améliore un peu là-bas? Eh bien non, pas du tout, puisque en ce moment, elle nous rappelle une triste réalité au Maroc, une femme qui vient d'être emprisonnée pour blasphème. Donc je vous encourage aussi à suivre les comptes de Betty Lashgar, pour c'est très très qui suit vraiment tout ce qui se passe dans le monde entier concernant les droits des femmes et concernant eh bien évidemment les droits, enfin la liberté de conscience, la liberté de critiquer les religions, etc. Alors une des conférences concerne justement cette question du blasphème, donc concernait lors de ce rassemblement, il y avait une conférence sur la question du blasphème et de la liberté d'expression. Et voilà, en fait, Susanna McIntyr, qui est une ex-catholique américaine, a dit « Toute critique de la religion est la plupart du temps perçue comme un blasphème ». La cinéaste et militante tunisienne Nadia El Fani a pris la parole. Elle dit « Je rappelle que le blasphème concerne uniquement les gens qui croient en une religion. Si je ne crois pas, je ne suis pas concernée par le blasphème. » Et elle rappelle au passage qu'il y a une loi sur le blasphème qui existe toujours en Allemagne. Ne parlez surtout pas d'islamophobie à ces ex-musulmans. C'est un mot qui est fait pour nous empêcher de critiquer l'islam, lance Halima Salat, qui est originaire du Kenya. L'islam est une idéologie et à ce titre, il doit toujours pouvoir être critiqué. Sami Abdallah, lui, souligne la différence entre critiquer les musulmans en tant que personne et critiquer une idée. Mais il n'hésite pas à aller encore plus loin. Il dit « L'islamophobie, ça désigne la peur de l'islam. Or, à titre personnel, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui font peur dans le Coran. » Quand les intervenants abordent la question des limites de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, à l'animatrice qui estime que Trump a été banni à raison de Twitter, Jimmy Bangash, qui est un ex-musulman et gay, originaire du Pakistan, rétorque « Trump est banni, mais quid des mollahs iraniens qui peuvent continuer à appeler à tuer des gays ou à tuer Salman Rushdie ? Ils sont toujours présents sur le réseau social. » Donc, durant ces deux jours, il y a eu d'autres conférences qui ont été organisées, notamment sur les difficultés qu'il y a parfois à être reconnu en tant que réfugié lorsque l'on est ex-musulman, sur la question du hijab et du corps des femmes. Cela va sans dire, aucune des ex-musulmanes ne porte plus le voile. Lors d'une conférence sur les politiques identitaires, des ex-musulmans ont insisté sur la manière dont la gauche les abandonne parfois. Sarah Kay, athée, originaire de Tanzanie, réfugiée en Suède, dénonce « La gauche nous a trahis. Elle se situe normalement du côté de l'émancipation. Mais elle abandonne les femmes musulmanes dissidentes. En Suède, je suis considérée comme étant de droite, car je parle en tant qu'ex-musulmane. Ils ne comprennent pas que l'islamisme est d'extrême droite. » La salle a applaudi. Halima Salat, Kenya. Halima Salat, qui est une athée qui vient du Kenya, témoigne de son côté avoir été désinvitée d'une conférence de la Women's March aux Pays-Bas, car elle s'apprêtait à critiquer le port du hijab. Ce rassemblement se déroulait aussi alors que se poursuit la guerre en Ukraine. Et Ina Shevchenko, présidente des Femen, était absente. Elle aurait dû intervenir lors d'une conférence et elle a fait lire un texte en expliquant sa désillusion vis-à-vis du monde démocratique. Elle dit « Vous remarquerez que nombre de mes camarades libéraux, dont beaucoup de gauche, qui ont souvent hésité à condamner les actes de violence commis par les extrémistes religieux, ont également hésité à condamner le régime criminel de Poutine et son attaque atroce contre le peuple ukrainien. » Tout au long de ces deux jours, l'art a occupé une place importante, car c'est sur ce terrain-là aussi que se situe la contestation. Donc entre des conférences, on a pu voir un youtubeur chanter « La musique est haram », un ancien pasteur évangélique devenu athée jouer du piano et chanter en boucle « Attention au dogme », ou encore l'artiste afghane Sarah Nabil proposer une performance où elle se coupe les cheveux. En fin de journée, place à la guest star Richard Dawkins, scientifique et militant athée britannique. Il arrive sous une standing ovation, si l'on osait, on dirait que c'est le seul gourou qu'ils suivent ici. Il loue les sciences pour leur indépendance vis-à-vis de toute culture et dit « Il n'y a pas de physique japonaise ou américaine, c'est juste de la physique. » Et il prône la méthode scientifique. La seule chose importante, ce sont les preuves. Ne croyez jamais à quelque chose s'il n'y a pas de preuves. Si on dit « ça m'a été révélé », ce n'est pas une raison pour le croire. Le Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne avait déjà lancé la journée de l'apostasie le 22 août dernier. Cette fois-ci, en conclusion de l'événement, ils ont appelé à créer une journée internationale de la laïcité le 10 décembre pour promouvoir la laïcité dans le monde entier. Peut-être que la prochaine édition de ces dissents pourrait se dérouler en France et on aimerait la faire à Paris, nous confie Mariam Namazier. Pour cela, il faudrait qu'elle obtienne donc le soutien d'associations et de groupes laïcs français. Elle espère que ça sera le cas et elle dit ce n'est pas forcément gagné. Donc, du coup, pour compléter sur Mariam Namazier, quand elle a découvert l'attaque de Salman Rushdie, elle a publié pour revendiquer le droit d'être anti-islam et elle a écrit ceci. Je découvre avec stupéfaction que certaines de mes consœurs se sont faites blâmer parce qu'elles se sont montrées solidaires avec Salman Rushdie. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour que, selon certaines, mériter son sort. Pour, pour, selon certaines, mériter son sort, et cela m'importe peu. En revanche, je sais très bien ce que l'intégrisme islamiste a fait aux femmes. 14 siècles d'infériorisation. 14 siècles que leur parole vaut la moitié de celle d'un homme. 14 siècles qu'elles coupent la prière au même titre que le chien noir et l'âne. Qu'elles doivent obéissance à leur tuteur, car considérées comme mineures à vie. 14 siècles d'esclavage sexuel, pour être à la fin la plupart des habitantes de l'enfer. Quant aux hommes, eux seront récompensés par des vierges éternelles, des femelles à leur service sexuel éternel. Mais pourquoi aller aussi loin ? L'islamisme, c'est aussi les yazidites réduites en esclavage sexuel, les iraniennes privées de liberté depuis la révolution de Khomeini, les afghanes qui viennent d'être privées de l'école, du travail et de toute liberté, les petites filles mariées dès 9 ans au Yémen. L'islamisme, c'est aussi mes 3 cousines assassinées en Algérie parce qu'elles ne portaient pas le voile. Alors permettez-moi de soutenir Salman Rushdie contre l'intégrisme islamique qui fait face à l'obscurantisme depuis plusieurs décennies. Donc vous pouvez aussi retrouver une interview de Mariam Namazier sur le site de Charlie Hebdo. Et donc je vais finir aussi en citant quelques citations de Salman Rushdie par rapport à l'islamophobie. Voilà ce que dit Salman Rushdie. Le terme islamophobe est une manipulation sémantique visant à empêcher toute critique de l'islam. Traiter d'islamophobe quelqu'un qui ne fait que critiquer l'islam, le Coran, ainsi que les crimes commis par des musulmans, c'est aussi idiot et malhonnête que de qualifier d'anti-juif quelqu'un qui critique le judaïsme et la Torah et qui dénonce les crimes commis par des juifs, comme envers les Palestiniens. Avec cette logique, ces défenseurs bornés de l'islam devraient aussi qualifier de raélophobes, scientolophobes, jévaophobes, ceux qui critiquent les crimes ou dérives obscurantistes du mouvement raélien, de la scientologie et des témoins de Jéhovah. Beaucoup de musulmans sont complètement aliénés par leur religion et feront tout pour la défendre coûte que coûte. Ce n'est pas pour autant qu'il faut nier qu'il existe des discriminations envers des musulmans, comme il peut exister des discriminations pour chaque groupe ethnique, religieux ou politique. Le terme islamophobe permet de faire un amalgame entre l'anticléricalisme, qui est licite, et la haine des musulmans, qui est répréhensible pénalement. Il est ainsi instrumentalisé par des islamistes notamment, pour disqualifier le discours laïque et les valeurs de la République. La plupart de ceux qui utilisent le terme d'islamophobie sous-entendent que c'est du racisme. Or, l'islam n'est pas une race. Tout comme le christianisme, le judaïsme, le shintoïsme et d'autres sectes moyenâgeuses, une religion n'est pas inscrite dans l'ADN des individus. Ce n'est pas une couleur de peau ou un type morphologique. Ce n'est qu'une croyance, une idéologie. Et on peut critiquer ces croyances, les caricaturer, les moquer, sans pour autant haïr ceux qui en sont membres. Utiliser le terme islamophobie, c'est rentrer dans le jeu des islamistes et de leurs nombreux idiots utiles. Il faut revendiquer le droit d'être anti-islam. Être anti-islam, critiquer cette religion profondément obscurantiste et haineuse, c'est un droit. Et je pense aussi que c'est un devoir pour ceux qui se réclament humanistes. Voilà, donc moi je n'ai pas peur non plus de critiquer toutes les religions et je suis anti toutes religions qui sont, je viens de parler de l'IVG aussi aux États-Unis, c'est pas d'islam dont il s'agit. Et donc toutes les religions sont misogynes et totalitaires et dangereuses pour les femmes. Et puis, je voulais terminer sur effectivement le problème de la gauche, souvent une certaine gauche qui confond religion et race, qui croit que critiquer les religions c'est du racisme, etc. Et qui abandonne finalement les femmes musulmanes, on les entend jamais, hein, jamais, 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 qui abandonne les femmes musulmanes qui veulent se libérer des dogmes religieux, qui veulent se libérer du hijab. Donc une certaine gauche qui défend seulement les femmes qui prônent que le voile c'est leur choix et donc qui oublient complètement toutes celles qui risquent leur vie de culture musulmane et qui sont tellement nombreuses et qui luttent contre le voilement. Et du coup, je vais finir sur des citations donc, de l'abandon de cette gauche. Alors Mariam Namazier, donc justement celle dont je viens de vous parler, hein, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Les progressistes qui se rangent souvent aux côtés des islamistes contre nous, les contestataires, sont progressistes quand il s'agit de leur vie et de leurs droits. Ils veulent légitimement le mariage gay, avoir le contrôle de leur corps, le droit d'être athée et de critiquer le christianisme, le droit d'avoir des relations sexuelles hors mariage, de danser, d'aimer, de se moquer du pape, du Vatican, mais pas quand il s'agit de nous. » Leurs exigences pour eux-mêmes sont sans limite, mais nous ne sommes supposés vivre notre vie que confinés dans les limites de l'islam. Nous sommes vus comme des extensions de nos communautés et de nos leaders religieux, et non comme des individus possédant des droits et des idées politiques qui sont, entre parenthèses, pas spécifiquement occidentales, mais universelles. Je vais citer Zohra Bitane qui dit « Que ceux qui n'osent pas dénoncer l'islamisme rampant, dont la femme musulmane sera le premier tribut en cas de victoire, se souviennent des combats que nous avons menés, nous, les Zohra, Fatima, Jamila, Samia et tant d'autres encore. Lorsque des traditions, une religion quelle qu'elle soit, deviennent le mode d'emploi de ce féminisme, il ne s'agit plus de liberté, mais bien de soumission. » Et je vais finir par Sophie Robert, dont je parlerai aussi une prochaine fois, qui est une documentariste. Et qui dit « Une grande partie de l'extrême gauche et des Verts défend aujourd'hui les partisans de l'islam politique d'une manière aveugle, au motif que ces revendications émaneraient de personnes racisées, doivent être défendues comme l'expression légitime d'une minorité opprimée. Quand bien même leurs revendications sont celles d'une extrême droite politique et religieuse, à l'opposé des valeurs de la gauche, ségrégation radicale entre les sexes, mise à mort des homosexuels et des femmes adultères, condamnation à mort des athées, interdiction de toute liberté d'expression au profit d'une application stricte de la charia, etc. » Et pour terminer, je vous dirai moi ce que j'en pense. Eh bien, je pense que le féminisme doit nécessairement critiquer, voire rejeter les idéologies religieuses, patriarcales, et ne pas avoir peur de les défier. Et je dirais que je m'oppose à toute discrimination, tout mauvais traitement que justifierait le soi-disant respect de la religion. Je revendique la liberté de critiquer toutes les religions, ainsi que l'interdiction de toutes les coutumes, règles, cérémonies ou activités religieuses qui s'opposent à l'autonomie des femmes, à leur volonté, à l'égalité, ou qui violent les droits et libertés des femmes, tels que soumission au père, frère, mari, voilement, excision, virginité, polygamie, mariage forcé, mutilation génitale, contrainte à l'hétérosexualité, etc. Donc je combats tous les patriarcats, qu'ils soient d'origine culturelle, religieuse, capitaliste ou tous les patriarcats. Voilà, je vais terminer là-dessus et vous dire donc à la semaine prochaine. J'ai dépassé l'heure, donc je dois faire attention. Je vous laisse avec l'hymne des femmes. Nous qui sommes